L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'EM, votre quotidienne sur Transistor. Nous sommes en direct de midi jusqu'à 13h et aussi en rediffusion le soir même à 18h. Les porteurs de patrimoine culturel immatériel sont des hommes, des femmes. Nous parlons ici d'humain et d'humanité. L'humain transmet. Cette transmission varie, elle n'est pas figée, immuable ou reproduite à l'identique d'une génération à l'autre. La transmission implique toujours des problématiques d'appropriation et d'interprétation liées au passé, au présent, au futur, mais aussi à la réalité et à la mémoire de chacun. Le patrimoine culturel immatériel touche les arts du spectacle, l'artisanat, les traditions orales et beaucoup d'autres choses, parfois évidentes et parfois même surprenantes, comme le jeu vidéo, où depuis avril 2024, certains constructeurs de plateformes de jeux ont créé des équipes dédiées au patrimoine vidéoludique. Alors le jeu vidéo, vous allez voir, ce n'est pas qu'une partie de plaisir, c'est aussi très très technique. Alors je suis aujourd'hui avec Pierre Christofari. Bonjour Pierre.
Bonjour et merci de nous recevoir.
Eh bien avec plaisir et bonjour Mélène Mertet.
Bonjour.
Alors vous êtes tous deux les fondateurs de First Attack, hein. C'est une association de Morlaix qui fait revivre le jeu vidéo d'antan et plus précisément de la bande d'arcade, autrement dit des jeux de café. Mais c'est quoi exactement une bande d'arcade et pourquoi on appelle ça une borne ?
Mais une borne d'arcade, c'est vrai qu'au final, quand on réalise ce que c'est beaucoup de supercherie. C'est-à-dire qu'on repense dans les années 90, dans les magazines Console Plus, Joypad et tout, ils vendaient ce qu'on appelle les superguns, des combos AV, en prétendant que c'est une machine, en prétendant que c'est une console. Ce qui était une arnaque sans nom, à 3500 francs lourds de l'époque, puisqu'en fait, c'est du câblage. C'est du câblage et une broche. Le jeu, il faut le mettre à part, qui lui-même a sa broche, mal, le JAMA, le standard JAMA, qui était un standard qui a été instauré en 86 ou 87 par les différents producteurs, voilà, pardon, on va dire ça, pour éviter que les exploitants aient à souder, dessouder à chaque fois la plaque, quoi. Non, attendez les gars, foutez-vous d'accord sur un standard et mettez un connecteur femelle dans la borne et vous rentrez avec un connecteur mâle pour les jeux, vous restez standardisé. Donc, au final, une borne, il n'y a rien dedans. C'est vide, c'est complètement vide, c'est un écran. Donc là, on est sur le même principe qu'une vieille télé, un écran CRT, donc le tube en verre sous vide et puis une partie électronique. Et le reste, c'est un faisceau de câbles qui part sur un peigne femelle. Le reste que vous mettez à l'intérieur, vous l'interchangez et c'est le jeu qui contiendra le hardware. C'est comme si chaque jeu contenait une console. Mais la borne en elle-même n'a aucune fonctionnalité hard. Voilà, c'est le mythe un peu qui s'écroule. Mais quand vous mettez, par exemple, un jeu Neo Geo, alors voilà, à l'époque aussi, il faut savoir que les jeux ont eu quelquefois, comme la Neo Geo ou les CPS de Capcom, la possibilité de séparer le hardware, donc on va dire la console, du software, le jeu. Donc ça permettait à l'exploitant de ne pas avoir à chaque fois à racheter le hardware et d'enlever la cartouche ou de la changer. Mais voilà, une borne, donc c'est un écran et un faisceau de câbles qui permet l'alimentation de l'écran, les contrôleurs, le son acheminé par un peigne, tout simplement.
L'objet, en fait, en soi, c'est un peu comme quand tu vas en fête foraine. Il est là juste pour t'attirer, pour qu'il y ait de la lumière, pour qu'il y ait de la couleur.
Et
voilà, et le son, en fait, et l'objet, il est là pour être gros, pour être vu, pour être visible, avec justement tous ces beaux autocollants qu'ils peuvent avoir sur les sides, pour tout ce qui est... je ne parle pas, pour le coup, des bornes japonaises qui sont un petit peu plus... Je mets des gros guillemets
sobre,
classiques.
Ouais.
L'objet, il est vraiment là pour t'appeler. Parce qu'en soi, il pourrait te poser une télé avec justement un système un peu super gun et tu aurais exactement la même chose que ta borne d'arcade. C'est exactement la même chose puisque le jeu, il sera là, ça sera la même interface. Par contre, l'objet, il est vraiment là pour que tu rentres dans la pièce, que tu rentres dans un bar, que tu rentres dans un aéroport comme ils le font aujourd'hui, ou peu importe où tu vas rentrer, l'objet, okay, il est là pour t'appeler.
Et les sons des jeux étaient aussi développés pour ça, qu'on appelle les attract mode, qui sont, quand on n'a pas encore mis sa petite pièce, beaucoup de petits sons aigus, stridents, ou qui nous appellent à l'autre bout de la salle, et qu'il fallait qu'ils permettent de reconnaître rapidement le jeu, avec des sons très, très, très typiques.
En fait, c'est juste... Enfin, moi, je vois ça comme ça, c'est l'écrin. C'est comme un écrin à bijoux. La borne, c'est l'écrin et le jeu, c'est le bijou.
Alors, quels sont les principaux défis de la conservation du jeu vidéo ?
Zi, je te laisse commencer.
Nous avons un axe, on va dire, qui est peut-être un petit peu biaisé par le fait que je suis personnellement et Mélène aussi passionné d'arcade. Donc ce sont vraiment un domaine, on va dire, qui est quand même en marge des consoles, puisque quand j'étais gamin dans les années 80, on voyait ces machines qui permettaient de faire tourner des jeux qui étaient totalement impossibles de faire tourner sur les consoles qu'on avait à la maison. J'ai connu mes premières consoles comme beaucoup de monde, avec deux barres blanches et une petite balle carrée qui rebondit des deux côtés, Pong sur Atari 2600, puis la NES. Et c'est vrai que quand on allait, même dès fin 80, voir des bornes d'arcade dans les salles, qui pullulaient à l'époque en France et dans le monde, on en trouvait quasiment à tous les coins de rue, dans les bistrots, il y en avait partout. Quand on tombait, je ne sais pas, sur un Wonder Boy avec toutes ces couleurs affichées, qu'on rentrait voir des jeux en violet, mauve et noir sur NES, aussi bon soit-il, on voyait qu'il y avait un gap, un fossé technologique absolument abyssal. Et comme beaucoup d'enfants, c'était le Graal, entre guillemets, de ce que pouvait être le jeu vidéo. Et ça l'a été, hein. Il a fallu attendre jusqu'à peu près 98 et la Dreamcast pour que l'arcade en salle soit toujours une vitrine technologique comparée aux consoles de salon. Et donc c'était vraiment un rêve inaccessible. À l'époque, une carte arcade JAMA coûtait 15 000 francs lourds de l'époque. Une borne, je n'en sais même pas, parce qu'il y avait les systèmes d'exploitation pour avoir le droit de la mettre dans un système commercial et que les gens y mettent des pièces. Donc c'était inaccessible, même pour quelqu'un qui avait les moyens, on ne pouvait pas avoir d'arcade à la maison. Donc c'était un véritable Graal. Et ce qui m'a amené justement par la suite, quand j'ai pu le faire, à me dire que c'était ça qu'il fallait absolument préserver, vu que toutes les salles avaient disparu vers l'année 2000. Voilà, donc ça a été le déclencheur pour moi de me dire, je peux le faire, les salles n'existent plus, on ne trouve plus de bornes nulle part, donc il va falloir absolument recréer notre propre écosystème et ressouder une communauté.
Et pour vous, Mélène ?
Alors moi, de mon côté, c'est légèrement différent, puisqu'au final, l'arcade, je l'ai connu beaucoup plus tard que Pierre. Moi, je suis une gamine de la fin des années 80, et au final, tout ce qui est borne d'arcade dans les bars, j'ai beaucoup moins connu, surtout qu'on n'est pas de base de la même région non plus. Pierre, il vient du sud de la France, il vient de Nice, grande ville, avec forcément aussi, toutes les attractions qu'on peut trouver dans les grandes villes, qu'on ne trouve pas forcément dans les petits villages. Moi, je viens d'un petit village du nord de la France. Et nous, dans nos villages, au final, quand on allait au café, on avait des flippers. Donc, moi, j'étais très, très passionnée par les flippers et les jeux vidéo, mais les jeux vidéo console, puisque c'est ce que j'ai connu à l'époque. Et au final, l'arcade, moi, je l'ai vraiment découvert bien plus tard, au final, quand je suis allée travailler en région parisienne, quand j'avais une vingtaine d'années, et que j'ai connu, au final, les salles, la tête dans les nuages, comme il pouvait y en avoir plusieurs en région parisienne à ce moment-là. Donc, voilà, mon attrait à l'arcade est arrivé bien plus tard. Moi, c'est passé, en plus, par des bornes très particulières, puisque une de mes premières bornes d'arcade, c'était la Time Crisis 2, avec son jeu de shoot. C'était au final ce qui avait le plus d'attrait pour moi, tous ces jeux de shoot. Et c'est quand j'ai rencontré Pierre bien plus tard au final que j'ai découvert vraiment le système arcade, les bornes d'arcade, et quand j'en ai vu deux dans son salon, que j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Je crois que j'ai loupé un bout de l'histoire vidéoludique. Voilà, ça, c'est comme ça que ça s'est passé, en tout cas ma rencontre avec l'arcade, on va dire.
Ouais, parce que le jeu vidéo, il a une histoire. Il a bouleversé énormément de choses, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et c'est un art. C'est devenu, le 10e art, avec la sculpture, la peinture, la photographie, le cinéma, tout ça. Il a bouleversé beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de mal aussi aujourd'hui. Oui. Il en fait encore aujourd'hui. C'est quoi l'importance de la patrimonialisation, pardon? Patrimonialisation.
Ça existe vraiment, c'est un néologisme, là?
Non, c'est un vrai mot.
Mignon.
Si, j'arrive pas.
Il n'y a pas de souci. On n'aurait pas su, si tu avais retenu le premier, t'inquiète.
Mais c'est vrai qu'il est long.
Il n'y a pas de souci.
Donc, des jeux vidéo pour la culture contemporaine.
Écoute, je t'avouerai que je ne saurais pas vraiment être objectif, étant moi-même un grand passionné. On va essayer de faire un dézoom. Et c'est vrai que quand tu fais un dézoom, que tu regardes le crash... De 83 d'Atari, comment ça a été traité, comment l'industrie du cinéma, qui ne rêvait que d'une chose, c'est que ça disparaisse, parce que ce média aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est que si on le diabolisait à l'époque, c'est que bah, on voyait que ça pouvait détourner des gens d'autres médias, comme le cinéma, et que Nintendo est arrivé au Japon avec la Famicom et a relancé la sauce et l'a diffusée ensuite aux États-Unis, en Europe, avec le raz-de-marée que l'on connaît de la Famicom, c'est-à-dire la NES chez nous, en Occident. Oui, c'est absolument bouleversant. Et je repense à l'époque, justement, quand les journaux télévisés, les choses très officielles, les politiciens, les politiciennes surtout, visaient à dire aux parents que ça allait les rendre fous, que ça allait même faire exploser les téléviseurs, je me souviens. Pauvre SCART, qui est quand même un système, la Péritel franco-français. Alors, le magnétoscope, il n'y a pas de problème. Canal+, il n'y a pas de problème. Mais la console, ça allait faire péter la télé. Pas de problème, d'accord. Voilà, donc, transformez votre enfant en boucher. On voyait passer n'importe quoi sur le jeu vidéo. C'était un truc de dingue. Il n'y avait pas un truc qui était vrai, quoi.
Mais alors, pourquoi ils ont eu peur? Parce que quand on regarde les jeux vidéo de l'époque, il n'y avait vraiment rien de réaliste. C'était pas très joli.
Oui, quand c'était encore E.T. qui se fait enterrer dans le désert parce qu'il y avait une surproduction de daubes. Quand Famicom débarque en 85 avec Super Mario Bros, que tu prends la manette en main, que tu as, même si c'est de l'analogie, tu as l'impression que tout est comme maintenant avec un stick analogique, tellement le saut est contrôlable, le B-dash est contrôlable, l'inertie est oufissime. Enfin, je veux dire, Super Mario Bros avec Street Fighter 2, pour moi, c'est les deux pierres angulaires de l'avant et de l'après. Pour deux raisons différentes, mais on va prendre dans le game design et dans les jeux de plateforme. Quand ils ont vu arriver, je pense, Famicom et ce qui était vraiment un jeu, je pense qu'il y avait aussi une fausse innocence à dire oui, on veut protéger nos gens. Ils s'étaient vraiment rendu compte que sur ce coup-là, il pouvait y avoir quelque chose qui allait faire de l'ombre à l'industrie du cinéma. Et c'est une théorie que j'ai pu voir relayée sur différents sites, des aveux, des interviews d'anciens du milieu qui, à demi-mot, l'avouer, entre guillemets, qu'effectivement, il y avait une énorme peur, et à juste titre, maintenant, ça vaut quasiment plus, pèse plus lourd que l'industrie du cinéma, donc tant mieux.
Et de la musique.
Et de la musique.
Et de la musique réunie. Cinéma, voilà, plus donc, musique réunie.
Vous avez un peu raison, bon, d'avoir peur,
mais c'est arrivé longtemps après, quand même.
Mais c'est arrivé longtemps après. Mais voilà, quoi, c'est vrai que la Super Mario Bros, la Famicom, ça a été incroyable, surtout en sortie d'une banqueroute et en sortie d'un game over créé par les Américains qui crée une surproduction et forcément de mauvais jeux quoi, qualitatifs, d'où le seal of approve de Nintendo qu'on voyait sur les cartouches qui n'a pas forcément toujours été respecté quand on voit le nombre de daubes qu'il peut y avoir aussi sur la Nintendo. Bon, ça n'est pas un problème ça, mais bon voilà quoi, l'accent était mis sur la qualité. Et puis bon voilà quoi, Super Mario Bros pour 85, c'est un jeu qui est intemporel, vous y rejouez maintenant, il est toujours aussi bon, le premier Super Mario Bros, il n'y a pas de souci quoi.
Alors il n'y a pas que l'industrie du cinéma que le jeu vidéo a un petit peu cassé, il y a aussi le jeu de société.
D'accord.
Le jeu de société, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le jeu de société, lui, il a complètement craqué avec l'arrivée des consoles dans les années 90.
Ouais.
Il aura fallu au moins 10 ans au jeu de société pour comprendre que ben, s'il voulait survivre, il va falloir se réinventer. Maintenant, voilà, on parle de jeux modernes et de jeux de supermarché. Quand on parle du Monopoly, du Scrabble et compagnie,
d'accord,
voilà, des jeux... Et là, le jeu de société revient quand même de très 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 loin. Il n'y avait pas que le cinéma. C'était juste une petite...
Ah oui, mais tu viens de le dire, et c'est vrai que quand on y réfléchit un peu avec du recul, oui, ça a dû morfler aussi sévèrement et rendre un peu has-been un attrape-souris ou un truc comme ça,
ouais,
quand le gamin est en train de débloquer des portes dans Goonies 2 en devant, ouais, traduire en anglais à sa maman. Oui, d'ailleurs, il faut reconnaître au jeu vidéo le mérite d'avoir appris l'anglais à beaucoup d'enfants de 5-6 ans très tôt,
ouais.
Sur des mots basiques et usuels.
Alors, il y a quelque chose par contre qui existe, parce qu'on parle d'avant puis on parle de maintenant, c'est le dématérialisé.
Oui.
Et ça, est-ce que ça pose un vrai problème pour la conservation du patrimoine vidéoludique?
Moi, je pense pas. Après,
moi, pas du tout non plus, au contraire. Après, c'est le ratio qui est important. C'est voilà, quelle quantité, comment, il y a dématérialisé. Pour parler de dématérialisé, en ce qui me concerne énormément et qui m'a fait replonger il y a 20 ans à fond dans l'arcade, on va parler émulation, qui est donc le dématérialisé dans toute sa splendeur. Et là, il y avait un côté préservation absolue de jeux qu'on n'aurait jamais pu retrouver, qu'on retrouve en dématérialisé et qu'on va peut-être même par la suite pouvoir racheter en dur, et valable pour n'importe quel jeu. Donc je ne pense pas que le dématérialisé soit un problème, c'est juste un moyen accéder à quelque chose. Par contre, il ne faut pas que ce soit un raz-de-marée de dématérialisé, ce vers quoi, malheureusement, j'ai l'impression, on se dirige avec la fin des gens en boîte et notice. Mais Dieu merci, il y a encore plein de petites boîtes sympas comme Limited Run et tout ça, qui continuent à pouvoir proposer des beaux coffrets. Et du coup, ça les rend plus en série, entre guillemets, un peu limitée. Donc finalement, on est un peu dans le meilleur des deux mondes. Je trouve, à l'heure actuelle, je ne trouve pas qu'il y ait de quoi s'alarmer. J'ai vraiment rien contre le dématérialisé. Au contraire, ça, ça peut faciliter l'accès.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres stratégies que le dématérialisé pour avoir un joli patrimoine, une belle conservation du jeu vidéo?
Au final, via l'émulation, hein, je pense que...
Alors, c'est quoi l'émulation?
Alors, l'émulation, c'est une vaste histoire, parce que l'émulation, je crois que dès 96... Bon, c'est fin des, deuxième partie des années 90, que sous MS-DOS, les gars commençaient à se goinfrer des lignes de code pour commencer à émuler les trucs. Fallait ghoster aussi le clavier, donc je vous dis pas, quand vous aviez deux touches à faire remappage des touches, donc tout en fonction clavier, donc des fois quand vous aviez deux boutons simultanément, ça marchait pas, mais le rendu était déjà exceptionnel, ils arrivaient à faire de l'émulation à l'époque.
Beaucoup de mots techniques, ça fait aussi partie du patrimoine du jeu vidéo. Oui. Le mappage et ghoster un clavier, alors ça veut dire quoi?
Bah, par exemple, quand vous allez émuler votre jeu, si c'est via un PC. À l'époque, ça l'est toujours. Il y a des solutions alternatives, mais un Raspberry, ça reste aussi un mini PC. Donc l'ordinateur va devoir imaginer qu'il est le système que vous allez lui dire qu'il est. Donc en général, il va falloir une puissance déjà de base. À l'époque, si je ne dis pas de bêtises, 4 à 5 fois supérieure. Je veux émuler un jeu d'arcade sur un vieux 486 DXE66, ça ne va pas le faire. Il va falloir au moins du Pentium 2. Et donc à l'époque, c'est vrai que sur les PC, il y a eu les balbutiements de l'émulation dès la deuxième moitié des années 90. Ensuite, c'était complètement tombé dans l'oubli parce que c'était très complexe, ça nécessitait de rentrer des lignes de code abracadabrantesques que seuls les initiés pouvaient faire. Et il y a eu la première Xbox. Alors, je vais parler de la première Xbox parce que celle-ci a complètement démocratisé l'émulation quand elle a été hackée. Il y avait moult façons de le faire à l'époque. Je ne crois pas que le flashage encore existait au début. Il y avait forcément que la puce à mettre dedans. Et on avait le Final Burn dedans avec les émulateurs. Le MAME était moins bien optimisé, si je me souviens. Bon, bref. Et ça a permis, je crois, 80% des gens qui actuellement ont replongé becs et ongles dedans, de redécouvrir ces jeux-là. On avait 20-30 ans à cette époque-là, 20 ans moins, et on était un peu sortis. J'étais un peu sorti, moi, du jeu vidéo à ce moment-là, d'autres occupations, d'autres préoccupations. Et quand j'avais vu cette Xbox 1, avec tous les émulateurs arcade dedans, et que j'avais pu me refaire un Magician Lord sur Neo Geo, sur cette console-là, pas forcément dans les meilleures conditions. Du coup, il devait y avoir un input lag pas possible avec la manette Xbox, avec une résolution entrelacée qui ne devait pas être folle. Mais bon, le contraste avec, je sais pas, il y avait Driver 3 qui sortait à l'époque, des True Crime, des jeux 3D un peu insipides, pas forcément jolis et ultra buggés. Et j'ai dit, mince, mais c'est ça les bons jeux en fait. C'est ces jeux ciselés en 2D. Et ça m'a complètement remis dedans, moi, et comme je vous parlais de 80% tout à l'heure, c'est pas un chiffre au pif, c'est que je vois dans toute ma commu, on reparle de cette période-là. Ah ouais, quand on a eu la Xbox 1 avec les émulateurs, ah ouais, ça m'a remis dedans complet, je me suis dit, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Et de ces émulateurs-là, on est passé à la cartouche d'origine, un slot pour le mettre sur la télé, puis la borne, puis une deuxième, et voilà. Et on a fait un peu comme le saumon, on est revenu à la source, grâce aux émulateurs.
Et qu'est-ce qu'elle avait de particulière, cette première Xbox?
Oh ben, la première Xbox, c'est un peu une Dreamcast 2. Et je rends hommage du coup à Sega et à la Dreamcast qui a fait une architecture typée PC.
Avec Windows CE.
Où il y avait Windows CE dans la Dreamcast et l'architecture. Carte son d'un côté, très bonne qualité Yamaha. Carte VR, Power VR, NEC d'un côté. Un PC, un mini PC, enfin le meilleur du monde du PC avec son assemblage. Et la Xbox 1 était dans ces clous-là. Et quand j'ai Dreamcast 2, c'est pas anodin. Quand on voit Jet Set Radio Future, Panzer Dragoon, la suite. Il y a eu Gungrave qui est un peu... Il y a eu même les Frame Software avec Autogi. Enfin, il y avait une âme de Sega, les Dead or Alive avec leur... Enfin bref, et puis même dans la sortie vidéo qui pouvait tirer jusqu'en 720p pour l'époque quand vous la modifiez. Et celle-là était du coup, grâce au câble croisé, le port à l'arrière et tout, le bonheur de tous les pirates. Et je dis pirates entre guillemets parce que je pense que Microsoft avait pensé que ça allait être ça, déjà de base. Et ça ne les a pas dérangés. Je pense que ça a... Alors, ça devait plus les déranger quand dans la console, on y foutait des jeux récents. Mais sinon, pour le reste, ça a donné une telle popularité à la Xbox 1 que je pense que s'ils ne sont pas trop bêtes, ils ont dû se dire que finalement, ça a été cool, quoi, que la console y ait les émules dessus.
Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ne l'ont pas été bêtes du tout, puisque... Par un simple petit bouton, on pouvait faire basculer la Xbox One et les Xbox One X, Series S, Series X, donc pour la toute dernière en date, avec un mode développeur.
D'accord.
Non, et donc, il y a encore quelques mois, on pouvait mettre sans problème des émulateurs. Et c'était même communiqué par la team Xbox en disant « Oui, non, il n'y a pas de
ça,
chez
c'est
nous. »
C'est un très bel état d'esprit, je trouve.
Ouais.
Bah oui, je trouve que c'est un super état d'esprit de la part des développeurs. Ah, c'est génial. Oui, je n'avais rien d'autre à rajouter. Excuse-moi. Non, je trouve ça génial d'avoir compris que le jeu entraîne le jeu pour le joueur, par le joueur. Ça, c'est beau, quoi. Non, mais voilà, ça, c'est... contrairement à certaines marques qu'on voit toutes mignonnes, avec des champignons, des couleurs partout. Oh, ils sont trop mignons. Bah, quand j'avais un magasin de jeux vidéo, ils m'envoyaient leurs experts pour vérifier si mes Virtual Boy venaient bien du Japon. Oh mince, j'ai dit le nom du coup. M'envoyaient les noms et qui sont des véritables douchés de la loi. Ils sont affreux, quoi. De savoir ça de ce genre américain, je trouve ça sympa. Voilà, d'accord. C'est juste ça que je voulais dire, il ne faut pas se fier aux apparences, du coup.
Est-ce que les éditeurs ou la communauté contribuent à la préservation du patrimoine vidéoludique et de quelle manière ?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, au final, la communauté, elle aide énormément. C'est la communauté qui fait le plus gros du travail, même j'ai envie de dire, pour tout ce qui est préservation du patrimoine.
Alors, en faisant quoi, par exemple ?
Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de forums sur lesquels on va pouvoir retrouver énormément d'informations, particulièrement pour l'arcade. On a plusieurs forums spécialisés, à commencer par Neo Arcadia, qui a été le premier, au final, qui a été créé par... Un des premiers,
parce qu'il y avait Neo Geo World, je crois aussi, qui était WoW aussi, qui avait créé ça, mais vraiment dans les balbutiements, on n'était vraiment pas encore à l'Internet 2.0.
Et à l'époque, on ne trouvait aucune information, au final, sur comment restaurer une borne d'arcade, comment l'entretenir, comment faire en sorte que tout fonctionne à l'intérieur. Et bien, il y avait ces forums-là qui étaient là, et c'est les gens qui, d'eux-mêmes, allaient donner les informations, allaient échanger. Ça a créé une zone d'échange qui a permis, au final, qu'il y ait une passation de connaissances qui, aujourd'hui, permet un petit peu à tout un chacun d'aller sur ce forum, de consulter, de se dire « Bon, ben, aujourd'hui, moi, j'ai une borne qui ne fonctionne pas, que j'ai récupérée dans le café du coin, il n'en voulait plus, il me l'a lâché, j'ai payé ça 200 €. Alors, par contre, il n'y a rien qui marche, comment je fais ?» Eh ben, il suffit d'aller taper dans Google, d'aller voir sur un de ces sites-là, que ce soit Neo Arcadia ou HFS Play, qui aujourd'hui œuvrent énormément aussi pour la préservation du patrimoine arcade. Et tout est référencé, en fait. Tout est référencé, tout est là. Tout nous permet, au final, de partir de quelque chose de non fonctionnel pour en faire quelque chose de fonctionnel, que ce soit au niveau de son esthétique, puisqu'il y a tout ce qu'il faut aussi en tuto pour refaire l'esthétique de la machine, ou au niveau de son électronique. Donc, sans les joueurs aujourd'hui et sans la communauté, tout ça, ça ne serait pas possible.
Oui, et si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'on va taper, on va aller sur un forum. Mais souvent, ce qui est génial là-dedans, c'est qu'au-delà du virtuel, ça amène très rapidement au réel. Parce que les gens, selon qu'ils soient de la même région ou que les kilomètres à se goinfrer ne soient pas trop chauds, se retrouvent ensuite. Tu es d'où ? Attends, plutôt que de taper un message, machin, je vais passer chez toi. Donc il y a une valeur humaine derrière tous ces gens-là et derrière tous ces actes-là qui donnent lieu à des choses très concrètes en termes de gens qui peuvent même devenir de grands amis par derrière, quoi.
Alors ça, c'est presque spécifique à la borne d'arcade. On ne peut pas faire ça sur de la console de jeu. On peut presque faire ça sur du système PC type Raspberry ou PC, ou vraiment PC. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la borne d'arcade ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ?
C'est un gros G.I. Joe, un gros Transformer.
La fascination, purement la fascination qu'elle exerce, l'aura. Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que ça dépend aussi des tranches d'âge. On va séparer en deux catégories, ceux qui ont connu, donc quand je dis connaître, c'est pas juste en voir une au camping, mais connu les salles remplies, avec les quepons, les odeurs enfumées jusqu'à l'os. Moi, je faisais 1m10, le petit blond aux yeux bleus, j'avais pas le droit de rentrer, qui se faisait sortir par la mama qui tenait la salle. Enfin, il y avait tous les clichés possibles et imaginables, quoi. Moi, à Nice, j'avais vraiment la Mafratelli des Goonies 2 qui tenait la salle. Si on allait entendre les crédits qui montaient tout seuls parce qu'on avait mis l'allume-gaz sur la plaque de métal au coin, on se faisait défoncer à coups de parapluie. On avait les loubars, on avait les quepons, enfin les gîtes. Enfin, c'était incroyable, quoi, ce truc-là de sortie tout droit d'un film. Et les gens qui n'ont pas connu l'arcade, bon, ça fait deux catégories différentes. Aucune n'est la meilleure, aucune n'est la moins bonne, c'est pas le sujet. Mais c'est juste quel va être notre affect par rapport à cette expérience-là. Donc, pour quelqu'un qui a connu ça à l'époque, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étaler. C'est juste de se dire que la vie est injuste, qu'il n'y avait pas à faire mourir la Dreamcast en 98 trop tôt, qu'il n'y avait pas à perdre l'arcade trop tôt. Au Japon, ça perdure toujours parce qu'ils savent comment on entretient une salle, ils savent comment ça marche, mais ça a décliné de façon... Oui, bah plus, oui, il y a plus de la moitié des salles qu'on fermait. Le système à la pièce aussi disparaît au Japon. Il passe aussi beaucoup au forfait. Parce que maintenant, mettre une pièce pour se faire laver en 2 secondes et se lever, bah, ça attire plus vraiment. Et donc, pour en revenir au sujet, bon, nous, c'est facilement explicable. C'est juste qu'on veut retrouver ces sensations-là. Tant pis si c'est plus dans la rue. Tant pis si c'est plus avec le Kidam et que ce sera chez nous avec des inscrits à une association. C'est déjà fantastique et génial. Même si on perd la magie de... Salut, je te connais pas. T'es qui ? Putain, t'es super fort. Hein, tu viens de telle ville et tout. Bon, bah, ça, chez nous, on sait qui vient. Mais c'est fantastique quand même de le préserver. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas connu, j'avoue que là, je ne suis pas assez fin psychologue et je pense qu'il y a 40 millions de cas différents. C'est plus complexe. Je ne peux pas savoir si réellement ils aiment, si réellement ils ont de l'affect. Chaque cas est différent. Alors, j'ai une expérience très, très parlante. Pendant 2 mois, j'ai pu avoir une mini-salle d'arcade en plein cœur de Morlaix. Agnès Lebrun, à l'époque, la mairesse, m'avait permis de réaliser ceci. Donc, j'étais pendant 2 mois en pleine vacances. Et à Morlaix, il y a pas mal de gens en vacances d'été, dans l'hypercentre à côté du viaduc. Donc je ne pouvais pas être mieux placé. Et j'ai eu de 7 à 77 ans des gens qui venaient, des mamies, des enfants et tout. Et j'ai pu voir des gamins qui n'avaient jamais connu l'arcade au préalable, de 12-13 ans, accrochés comme jamais, des étoiles plein les yeux. D'ailleurs, j'ai fait 3 tournois. Les 3 tournois ont été gagnés par un enfant de 13 ans. Et il s'appelait du Dodonpachi. Du Mushi Mesama Futari 1.5.
Pac-Man, le dernier.
Et le Pac-Man. Et non, c'est le premier. Ouais, mais il y avait Pac-Man. Pac-Man. Les 3, il les a gagnés. Quand il venait, qu'il regardait l'écran et qu'il dosait, qu'il tenait le stick, il n'a jamais tenu un stick au préalable, sa façon, sa droiture, son dos, sa nuque, son regard, le menton, enfin, il y a plein de petits signes de posture, de gestuelle qui montrent. Il était à fond dedans. Je pense qu'il était plus passionné que certains qui prétendent l'être parce qu'ils ont des bornes dans une grange et qui ont 45 ans, quoi. Donc, voilà, ça m'a prouvé que ça n'a strictement rien à voir avec forcément l'avoir connu. Donc, c'est vraiment, à chaque fois, j'en apprends. Comme j'en vois d'autres qui n'en ont strictement rien à faire et qui regardent ces vieux pixels en se disant « Ouais, ok, super. Pff, bof. »
Eh bien, merci Pierre Christofari et Mélène Mertens d'être venus.
Merci.
C'était un plaisir.